Donc voilà, je passe la parole à Christian Morel.
Merci. Ma réflexion sur les politiques de non-punition sont un prolongement de ma réflexion sur les grosses erreurs. Récemment, j'ai réfléchi sur la haute fiabilité. Pourquoi des organisations qui sont très dangereuses sont aussi fiables? Pourquoi un avion de ligne? Pourquoi un sous-marin nucléaire? Pourquoi le pont d'envol d'un porte-avions, qui est un des endroits les plus dangereux au monde? Pourquoi telle unité de soins intensifs sont si fiables? Alors bien sûr, il y a des accidents, mais le taux de fiabilité est bien au-dessus de ce qu'on pourrait attendre. Alors, je n'ai pas toutes les réponses à ces réflexions, à cette question, mais une réponse, c'est que la culture de la non-punition des erreurs contribue à cette fiabilité. Bien, je vais vous présenter ma réflexion de la façon suivante. D'abord, je vais vous donner quelques exemples de politiques de non-punition. Ensuite, quelques exemples de politiques de punition. Ensuite, je vous présenterai quels sont les principes fondamentaux qui justifient les politiques de non-punition. Puis, je parlerai en quelque sorte des fondamentaux de la culture de la non-punition. Et enfin, je parlerai du combat entre les forces de la non-punition et les forces de la punition, qui est un sujet très conflictuel. Et je terminerai par quelques remarques de conclusion. Alors d'abord, quelques exemples de non-punition, en commençant par la fondation de la politique de non-punition en aéronautique aux États-Unis. Alors comment ça a commencé? Par un crash d'un avion de ligne de la TWA en décembre 1974. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une formulation qui était standardisée, mais pas codifiée, « cleared for the approach ». Et lorsque l'avion était sur le point d'atterrir, il n'était pas sur une route répertoriée. Et donc, les pilotes pensaient que la « cleared for the approach » signifiait que les contrôleurs prenaient en charge l'altitude. Et les contrôleurs considéraient que puisqu'il n'était pas sur une route répertoriée, ce n'était pas le cas. Comme il y avait du relief, l'avion a heurté une colline et il y a eu un crash et tous les passagers et les membres d'équipage sont morts. Le problème, c'est que 6 semaines avant, exactement le même problème s'était présenté. Et les pilotes avaient réussi à échapper au crash de justesse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les pilotes avaient transmis à leur compagnie le problème et la compagnie X avait diffusé au sein de la compagnie le problème pour que les autres pilotes de la compagnie fassent attention. Mais le sujet n'avait pas été transmis à la FAA pour qu'il soit transmis aux autres compagnies américaines, parce qu'à cette époque, si des pilotes n'étaient pas tout à fait sur la route répertoriée, la FAA pouvait leur enlever leur licence, et donc par crainte de sanctions, le sujet n'a pas été diffusé aux autres compagnies, dont la TWA, qui n'avait pas connaissance du problème, et il y a eu donc ce crash. Et ça a créé un traumatisme dans l'aviation civile américaine, et du coup, la FAA a décidé d'accorder l'immunité au rapport d'erreur et a créé un organisme que la FAA a confié à la NASA pour assurer une plus grande indépendance, l'Aviation Safety Reporting System, qui, depuis sa création, a diffusé 4000 alertes de sécurité. Donc vous voyez ici la page d'accueil du site de l'ASRS, avec, vous voyez, confidentiel, volontaire hein, et non punitif. C'est explicitement dit comme ça. Alors, je vais donner également l'exemple de la politique de non-punition chez Air France. Donc là, je remercie Patrick Mignon, commandant de bord à Air France et qui a des responsabilités importantes en matière de sécurité, qui m'a expliqué le mécanisme dont je parle sous son contrôle, si je me trompe, hein, puisqu'il est présent. Donc, le système d'Air France repose sur le Quick Access Recorder. C'est un disque optique de haute capacité dans chaque avion. Et après chaque vol, ce disque enregistre toutes les données du vol. Et après chaque vol, ce disque est examiné. Et s'il y a des paramètres qui sont différents d'un vol standard, eh bien, il y a une alerte. Le commandant de bord est interrogé de façon anonyme, pourquoi il a atterri avec tel angle alors que normalement on atterrit avec tel angle. Il est interrogé de façon anonyme et il répond de façon anonyme, comme avec un système d'enveloppe, comme pour les votes par correspondance. Et les cas anonymes sont examinés par une commission. Et quand il y a un cas grave, eh bien, ces cas sont diffusés dans la compagnie de telle façon que les autres pilotes puissent s'enrichir des enseignements à tirer de l'erreur qui a été commise. Également anonymes, les Air Safety Reports, les Cabin Safety Reports, les Ground Safety Reports, qui portent sur des questions techniques et ce qu'on appelle les REX, retours d'expérience, qui concernent davantage les personnes. Et finalement, l'ensemble de la navigation aérienne, civile, internationale est concernée par le sujet, puisque l'annexe 13 de la Convention de l'OACI établit officiellement la politique de non-punition. L'enquête sur un accident ou un incident a pour seul objectif la prévention des futurs accidents ou incidents. Cette activité ne vise nullement la détermination des fautes et des responsabilités. Et cette annexe 13 de l'OACI dit aussi « Le système volontaire de compte-rendu d'incident sera non punitif, hein, c'est les termes mêmes de la Convention, et assurera la protection des sources d'information. » Alors, cette politique de non-punition a diffusé aux États-Unis et est appliquée, par exemple, dans le système de santé américain des anciens combattants, puisque le directeur de la qualité de cet ensemble est un ancien pilote et astronaute qui connaissait l'application des politiques de non-punition dans la navigation aérienne. Et il a été diffusé un film, notamment « Beyond Blame », sur les risques dans la délivrance des médicaments qui a eu une audience nationale. On a l'exemple aussi de l'Institute for Safe Medication Practices aux États-Unis qui collecte au plan national les rapports anonymes d'erreurs de médication. J'ai trouvé d'autres exemples en Toscane, un système de santé en Nouvelle-Zélande. L'Académie nationale de médecine en France a elle-même établi une directive qui institue le principe de la non-punition. La connaissance des défaillances ne peut résulter que d'une déclaration spontanée d'un des acteurs de soins. Il implique deux conditions, une garantie de confidentialité et d'autre part une absence de sanctions. Cette politique de non-punition est également appliquée dans la lutte contre les incendies de forêt aux États-Unis, qui a créé un centre de formation dont le principe c'est « Blaming is replaced by learning ». Et on trouve également cette politique dans la gestion des brimades dans les écoles en Grande-Bretagne. On peut trouver encore un certain nombre d'autres exemples. Après avoir présenté ces exemples de politiques de non-punition, quelques exemples pour nous rappeler la réalité de politiques de punition. Alors il y en a un qui est absolument hallucinant, c'est le crash de l'ATR au large de la Sicile en août 2005. Alors il y avait eu une erreur de maintenance sur l'avion parce qu'une jauge de carburant d'un petit avion avait été montée sur un gros avion, donc la jauge indiquait des montants faux, et une erreur de conception en ce sens que l'alerte de manque de carburant était reliée à la jauge et non pas au réservoir. Donc les pilotes ont été en manque de carburant parce qu'ils n'avaient pas une bonne information sur le niveau de carburant. Ils ont dû atterrir sur la mer, et les pilotes ont été jugés, alors que ce n'était absolument pas leur faute, ont été condamnés à 10 ans de prison ferme par le juge italien. Alors heureusement, c'était par contumace, mais il y a cette condamnation. Bon, j'ai aussi vécu des cas d'entreprise de l'intérieur. Il y a la mise en cause d'une infirmière à l'hôpital Saint-Vincent de Paul en décembre 2008, Elle avait commis une erreur de produit injectable. De ce fait, un bébé est décédé. Elle a été aussitôt mise en examen, garde à vue, prolongée de 24 heures, interdiction de voir ses collègues, etc. On peut citer aussi une pratique récente de l'État français qui est de révoquer des hauts responsables là où se produit un accident ou un incident médiatisé. On a donc vu les limogeages d'un chef d'état-major de l'armée de l'air, du préfet de la Manche, du directeur de l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève, du coordinateur des forces de police en Corse. Et une conséquence assez étonnante, c'est que les préfets ont créé un syndicat. Alors j'exagère un peu, disons qu'ils ont créé une association de réflexion, c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais c'est bien une association de réaction par rapport à cette politique de punition, de recherche de bouc émissaire. Alors j'en arrive à la troisième partie, quels sont les fondamentaux de la non-punition ? Le premier principe de la non-punition, c'est que la punition dissuade de faire connaître ce qui s'est passé et que la non-punition encourage la diffusion de la connaissance sur ce qui s'est passé. Alors je vais donner deux exemples. Le premier exemple qui est vraiment magnifique, extraordinaire, je remercie Dominique Moyen qui est ancien directeur de l'INRS de m'avoir communiqué cet exemple, c'est le destin de l'arbre des causes en France. C'était une méthode très puissante qui a été formalisée par l'Institut national de recherche sur la sécurité pour analyser en profondeur les accidents du travail et qui est aujourd'hui très utilisée. Mais il faut savoir que à l'origine, avait été préparée une brochure pour diffuser cette méthode, cette brochure-là, et il était diffusé dans le périodique mensuel de l'INRS, une rubrique « L'arbre des causes du mois ». Et il y a eu un conseil d'administration de l'INRS pour diffuser cette méthode. Et à ce moment-là, le CNPF et les confédérations syndicales ont craint que l'arbre des causes mette en cause des individus et qu'on rentre dans une politique de punition. Et donc, du coup, le CNPF et les organisations syndicales ont interdit l'INRS de diffuser la méthode. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Dominique Moyen m'a communiqué les minutes du conseil d'administration. À un moment, le directeur de l'époque dit « mais c'est comme si on interdisait la diffusion du discours de la méthode. C'est une démarche intellectuelle à laquelle vous vous opposez. » Finalement, l'arbre des causes s'est quand même diffusé, mais petit à petit, par la base. Et puis, petit à petit, le principe de l'immunité s'est établi. Sur l'écran, je donne l'extrait d'une brochure pédagogique sur l'arbre des causes. Donc, on voit, d'un côté, il y a un gendarme qui est barré, qui fait une enquête pour rechercher un coupable. Et puis, de l'autre côté, ce qu'il faut faire, l'autre personne, l'enquêteur, qui dit pourquoi, comment l'éviter. Un autre exemple de blocage de la connaissance dû à la crainte de sanctions, c'est une enquête auprès des contrôleurs aériens anglais qui a été présentée à un colloque de l'OACI en avril 2006 à Bakou. Alors, a été posée la question aux contrôleurs aériens britanniques, qu'est-ce qui empêche le retour d'expérience sur les erreurs ? Et je vais vous présenter ici le pourcentage des réponses très important et important selon les rubriques. Alors, blocage de management, c'est autour de 10%. Absence de suite, c'est autour de 40%. Absence de feedback, autour de 40%. Très important. Manque de temps, autour de 40%. Réaction des collègues, autour de 10%. Et culture de la punition, près de 90%. Donc 90% des contrôleurs aériens britanniques disent c'est la culture de la punition qui empêche de diffuser la connaissance sur les erreurs. Et si on prend la rubrique très important, vous voyez que la rubrique culture de la punition donne un taux de plus de 40%, alors que la rubrique très importante est nettement moins importante sur les autres rubriques. Deuxième principe des politiques de non-punition, c'est la connaissance des incidents précurseurs, afin d'éviter qu'ils débouchent sur un accident. Donc ça existe dans l'aviation chez Air France. Là, je vais donner l'exemple des sous-marins nucléaires français. Les rapports d'événements indésirables anonymes sont consignés dans ce que les sous-mariniers appellent le Murphy. Et lorsque dans un sous-marin nucléaire, il y a un problème, eh bien aussitôt se réunit une cellule de réflexion, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et on va consulter le Murphy. Troisième principe, c'est que le problème de la politique des politiques de punition, c'est qu'elles produisent du bruit. On le voit bien avec l'accident de l'ATR de Tuninter, au large de la Sicile. comme on a privilégié la culpabilité des pilotes, hein, qui ont eu 10 ans de prison, et également du responsable de la compagnie, on a complètement passé sous silence les problèmes de conception de l'ATR, où il y avait deux problèmes de conception, le fait que l'alarme était reliée à la jauge et non pas au réservoir, et le fait qu'on pouvait monter une jauge d'un petit réservoir sur un gros avion. Quatrième principe de la politique de non-punition, c'est de remplacer l'inflation des règles par les retours d'expérience. Parce que lorsque on développe des politiques de punition, eh bien la réaction, c'est de se couvrir. Et comment on se couvre ? Eh bien, on produit des règles et des procédures. Donc, punition, se couvrir, règles et procédures. Or, lorsqu'on développe une culture de non-punition, on change complètement le processus. La politique de non-punition va entraîner un développement de la connaissance qui va être transmise par des processus de formation. Et dans les compagnies aériennes, où il y a déjà énormément de règles et de procédures, quand il y a des incidents, des précurseurs de problèmes, eh bien, au lieu de créer à nouveau des règles et des procédures qui vont alourdir et finalement créer elles-mêmes des risques nouveaux, eh bien, ça permet de développer la connaissance à travers la formation. Et bien entendu, un cinquième principe, c'est que toutes les politiques de non-punition excluent la faute intentionnelle. Alors, des auteurs préconisent, pour juger s'il y a faute intentionnelle ou erreur, ce qu'ils appellent le test de substitution. C'est ce que notamment préconise un spécialiste des erreurs qui s'appelle Reason. Donc, le test de substitution, c'est ceci. Une personne ayant le même profil professionnel dans les mêmes circonstances aurait-elle pu connaître la même erreur ? Si la réponse est oui, la punition n'est pas pertinente. J'aborde maintenant la quatrième partie, les fondamentaux épistémologiques et philosophiques, il y en aura deux, de la culture d'immunité concernant les erreurs. Le premier principe de la politique de la culture de non-punition, c'est que l'erreur est systémique dans nos organisations complexes qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'acteurs avec des causes enchevêtrées, des effets retours, des tâches imbriquées, ce qui fait qu'il est impossible ou difficile d'identifier un ou des coupables. Alors je vais donner l'exemple un exemple médical sous le contrôle de M. Sicot, qui sont les erreurs de côté. Alors, quand il y a une erreur de côté en chirurgie, ça peut être une erreur non systémique. En principe, le chirurgien fait attention et on n'a pas d'erreur de côté. Mais un chirurgien peut faire un lapsus, il dicte, c'est un cas réel, c'est un chirurgien qui me l'a confié après une conférence que j'avais faite devant des personnels de santé, il dit genou droit au lieu de dicter genou gauche. Et donc, il y a l'erreur de côté. Mais on peut avoir aussi des erreurs de côté qui sont des erreurs systémiques. Voici un exemple. Donc, il y a un côté à opérer, mais à la signalétique radio, il y a une erreur. Une petite erreur qui fait que le mauvais côté est indiqué. Normalement, il y a un détrompeur, c'est-à-dire qu'on teinte la partie à opérer sur le malade alors qu'il est conscient, parce que le malade sait en général de quel côté il a mal. Mais là, l'infirmière, après avoir vu le côté qui avait été teint, le compare à la radio et constate qu'il y a une différence. Elle se dit qu'il y a eu une erreur et elle teinte l'autre côté et c'est ce côté qui va être finalement présenté. Le dossier du chirurgien est une autre barrière à l'erreur, mais il se trouve qu'à ce moment-là, le chirurgien, Laurent Sédel, puisqu'il raconte ça dans son livre, dans ses mémoires, il est appelé dans un autre bloc chirurgical pour une opération très fatigante, d'urgence. Et donc, il revient, il est fatigué, un peu étourdi, et il ne fait pas attention. Et normalement, l'interne qui était présent dans le bloc opératoire aurait dû lui faire attention. Mais là, la redondance ne fonctionne pas parce qu'il n'avait pas bien vu le dossier. Et donc, il y a l'erreur de côté. Mais dans un système comme ça, c'est difficile de déterminer qui est coupable. Et même, on peut noter que l'infirmière qui s'est trompée, elle a cru bien faire. Et deuxième réflexion philosophique et épistémologique concernant les problèmes de punition, de recherche de coupables, c'est qu'il existe un résiduel d'erreurs incompressibles. Du fait de la complexité et de la multitude des facteurs dans l'action humaine et dans la nature, eh bien on observe ce qu'on appelle un phénomène de régression vers une moyenne minimale. C'est un cogniticien américain, Kahneman, qui a mis ça en donnant prix Nobel d'économie, qui cite l'exemple, il était instructeur auprès de pilotes israéliens, et il y avait des instructeurs qui lui disaient, quand on sanctionne des pilotes, eh bien ils s'améliorent. Et lui, il a démontré qu'en fait, tous ces pilotes, ils avaient une même moyenne de performance et de moins bonne performance si on prenait la chose sur une suffisamment longue période. Et que, en fait, les instructeurs qui pensaient qu'en punissant, ils étaient plus efficaces, c'était en fait une illusion statistique. On le voit aussi à travers des cas fréquents, des erreurs par des individus qui sont réputés très fiables. Hein, c'est le cas classique de l'infirmière qui se trompe et les journaux qui disent « Ah oui, mais c'était une infirmière qui était très consciencieuse ». Ou parfois l'exploit et l'erreur importante qui se commisent en même temps. Hein, on a parlé beaucoup du vol plané de l'Airbus sur l'Hudson, qui a réussi à atterrir sur l'Hudson. Eh bien, le copilote, il avait oublié de fermer les vannes d'étanchéité. Alors, supposons un instant hein, que, au lieu d'atterrir sur l'Hudson, il ait atterri en Europe et que seul le copilote ait survécu. Eh bien, peut-être qu'on aurait dit le copilote est coupable parce qu'il a oublié de fermer les vannes d'étanchéité et, en supposant que l'avion, à ce moment-là, ait coulé avec tous les passagers. Et on peut aussi citer le témoignage du professeur d'orthopédie Laurent Sedel qui dit « C'est incroyable, moi, en 30 ans d'expérience, j'ai toujours constaté que le taux d'erreur en chirurgie orthopédique était de 1%. » Il dit « C'est incroyable, quand j'ai des jeunes chirurgiens, ils pensent toujours qu'en fait, ils vont pouvoir améliorer ce taux. Et puis finalement, ils se rendent compte qu'au bout des années, en dépit de tous leurs efforts, eh bien, ils retombent sur ce taux de 1% résiduel. » Donc, la question qu'on peut se poser, c'est faut-il punir les événements indésirables qui entrent dans la marge du risque incompressible ? Répondre oui, c'est nier la complexité et l'indétermination du monde. Voir, c'est avoir une vision mécaniste de l'homme, de la société, de la nature. Et enfin, je terminerai en disant que c'est un sujet éminemment conflictuel, parce que du fait de la pression des victimes, eh bien, on a le processus pénal et les mises en cause, et en retour, les réactions de la profession. Donc, c'est l'exemple d'AZF. Vous avez les salariés d'AZF qui se sont constitués en association AZF Mémoire et Solidarité pour contrer le comité des victimes de défense des victimes d'AZF. Le conflit se traduit dans les mots, hein, puisque les acteurs vont essayer d'effacer la connotation accusatoire du mot « erreur » en parlant d'événements indésirables, hein, c'est la recommandation de l'Académie nationale de médecine, de précurseurs, c'est le mot qu'on utilise chez Air France, et les accusateurs vont intensifier la connotation accusatrice du mot « erreur » en parlant de faute virtuelle, de tromperie, d'empoisonnement. J'arrive aux remarques de conclusion. Le gros problème, hein, c'est qu'on l'observe à chaque fois que se produit une catastrophe, les victimes ont besoin d'un acte émissaire. Et donc punir les coupables, ça permet d'avoir le bouc émissaire. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a une autre voie qui est de connaître ce qui s'est passé et qui est à ce moment-là l'information émissaire? Et le bouc émissaire serait ainsi remplacé par l'information émissaire. Puisqu'on le voit dans les enquêtes administratives aux États-Unis sur les accidents de transport, il n'y a pas de procès pénal. Hein, les victimes se satisfont des enquêtes administratives. On le voit aussi dans les commissions nationales ou internationales Vérité et Réconciliation, à l'issue de conflits internes ou externes à des pays, où le but n'est pas de juger, mais de savoir ce qui s'est passé pour les victimes. Ou bien on a aussi les audiences publiques en cas d'irresponsabilité pénale, s'il n'y a pas de sanction au bout, mais il y a audience pour justement qu'il y ait une connaissance. Et la deuxième remarque, c'est que dans le cadre des politiques de non-punition, c'est la très grande qualité des enquêtes sur les erreurs. J'ai observé qu'il y avait une grande précision des observations, la prise en compte de liens complexes de causalité, une profondeur d'analyse sociologique, psychologique et linguistique. J'ai beaucoup utilisé les enquêtes l'explosion de la navette Challenger, la perte de la navette Columbia. Par exemple, sur le rapport concernant la navette Columbia, eh bien, il y a tout un passage qui est un véritable chapitre de réflexion sociologique sur la fiabilité dans les organisations. Si on prend les enquêtes du bureau d'enquête américain, du bureau canadien, du BEA, il y a des éléments très importants, très, très bien faits sur les processus qui sont en cause. Également, j'ai eu l'occasion de pouvoir consulter les accidents sur les sous-marins nucléaires français. C'est très, très intéressant. Il y a aussi tout ce qu'on trouve sur le site de l'Aviation Safety Reporting System, où on a, par exemple, des analyses de linguistique qui sont véritablement passionnantes. Et moi-même, pour mes réflexions sociologiques, j'utilise beaucoup cette source d'information, qui est remarquable de précision, de profondeur d'analyse. Et enfin, je terminerai en citant Foucault dans « Surveiller et punir », puisque Foucault parle de punition, bien évidemment. Foucault a une vision très top-down du pouvoir. Les politiques de non-punition sont pour moi, contrer un peu ce que dit Foucault, une illustration de la distribution très large du pouvoir, qui est également une manifestation bottom-up. Parce que les acteurs dans les organisations ont un pouvoir de rétention de la connaissance. L'histoire de l'arbre des causes en France illustre ça. Et également un pouvoir de négociation de la connaissance. Le système de non-punition chez Air France, ça a été au départ, on a le disque avec beaucoup d'informations, on peut avoir même ce que se disent les pilotes dans le cockpit, même leurs conversations privées, comment on va traiter cette donnée? Et il y a eu une négociation pour fixer les choses. Donc les acteurs ont les moyens de contrôler la façon dont le pouvoir les surveille. Et à la place du surveiller et punir de Foucault, ça sera ma conclusion, c'est plutôt aujourd'hui dans les organisations complexes de haute technologie à haut risque qu'on connaît, c'est plutôt surveiller et négocier.
Voilà. Merci.